Histoire d'archives, c'est tout de suite avec Jean-Christophe Labadie, directeur des archives, et Céline Bonnard, directrice adjointe aux archives départementales de Digne-les-Bains. Bonjour.
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 Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des monuments aux morts.
Alors oui, je voulais parler des monuments aux morts. En fait, c'est un travail que j'ai entrepris depuis maintenant quelques années, puisque si on remonte un peu dans le temps, dans le centenaire donc, de la guerre de 14-18, donc on avait proposé à l'époque aux archives départementales des expositions annuelles originales, qui s'était terminée donc, évidemment en 2018. Par la publication d'un ouvrage sur les bases alpins et la Grande Guerre, hein, donc qui s'intéressait à la question évidemment des combattants à l'avant, hein, donc au front, mais aussi à la question de l'arrière et en particulier au sort des personnes âgées, on disait à l'époque des vieillards, des femmes et des enfants, hein, qui avaient donc pris la relève de ces hommes, aussi bien pour les travaux industriels que pour les travaux agricoles, et en particulier évidemment dans ce dernier domaine, puisque les Basses-Alpes étaient un département essentiellement agricole. Voilà. Et donc, j'avais évoqué dans cet ouvrage une petite partie sur, justement, l'après-guerre, en fait, et donc ce grand mouvement d'élévation de monuments aux morts, hein, qu'on trouve dans toute la France, quasiment dans toutes les communes. Et voilà, j'avais un peu esquissé, en fait, une étude qui, évidemment, n'était pas satisfaisante d'un point de vue général, puisque c'était à partir de cas particuliers. Suite à ce projet, vous savez, il est toujours compliqué d'arrêter un projet, en fait, hein, de repartir sur un autre. Alors, évidemment, on a d'autres projets aussi toujours en cours. On m'avait suggéré, à l'époque, lors d'un comité réunissant des anciens combattants et de victimes de guerre, donc, de continuer ce travail et de l'approfondir, en s'intéressant donc aux monuments aux morts de tout le département. Alors c'est évidemment un problème au départ qu'on n'imagine pas aussi complexe. Je pensais en fait aller très vite et donc étudier chaque commune, chaque monument. Or, en fait, il s'avère qu'à l'époque, il y a 248 communes dans le département. Aujourd'hui, c'est 198. Ces 248 communes, pour la plupart, ont un monument. Alors quand on dit un monument, soit c'est un monument qu'on voit dressé, hein, soit dans le cimetière, soit sur la place du village, mais c'est aussi les plaques, hein, ce qu'on appelle des plaques, qui sont en réalité des stèles. Hein, donc tout dépend en fait de la richesse de la commune, hein, et donc de ses moyens. Et donc je suis parti là-dessus en me disant, bon, un an, deux ans, ça sera réglé. Et en fait, ça fait depuis 2020 que je suis sur le sujet. Et je pense que j'aboutirai peut-être en novembre 2024. Vous voyez, donc c'est encore un travail qui n'est pas terminé. Alors en fait, je rédige une introduction générale, bon, qui est quand même bien avancée, mais que je ne peux pas faire tant que je n'ai pas étudié tous les monuments, car mon ambition, c'est d'étudier tous les monuments de 14-18 du département des Alpes-de-Provence. Alors, ça fait beaucoup de monuments. C'est non seulement étudier les monuments, ce qui serait assez rapide, finalement, mais aussi d'évoquer les morts, puisque, par définition, un monument mort, c'est d'abord un monument pour les morts. Voilà. Et donc, je suis parti là-dessus, un peu, vous voyez, la fleur au fusil, hein, pour reprendre une expression de l'époque, en me disant, bon, ça va être facile, j'ai l'habitude, etc. Et puis, en réalité, c'est extrêmement long. Je suis actuellement en train de rédiger les notices pour chaque commune, et il m'en reste encore, donc 248 au total, hein, il m'en reste encore 32 à écrire, donc finalement j'avance, vous voyez, j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps, une toute petite commune. Alors quand c'est une toute petite commune, c'est bien parce que ça va vite, vous voyez, mais j'ai laissé passer par exemple Sisteron, vous voyez, Sisteron je garde pour la fin, Digne je garde pour la fin, ce sont des communes énormes évidemment.
Pourquoi et là, alors parce que c'est beaucoup de travail.
Ben, parce que c'est beaucoup et de travail, oui. Le monument lui-même n'est pas très complexe, mais le problème c'est tout, enfin encore que celui de Digne est très compliqué. Mais c'est le nombre de morts. Donc si je fais une étude en fait statistique sur les morts, hein, c'est-à-dire qu'en fait je regarde dans quelle arme ils servaient au moment de leur mort, leur âge, l'année où ils sont morts, oui, etc., pour essayer présenter en fait une statistique, une étude un peu générale. Donc il faut que je les étudie un par un. Donc ça veut dire qu'en fait, en l'occurrence, pour chaque mort, je vérifie d'abord sur le site Mémoire des Hommes, hein, qui est le site donc, du ministère des Armées, où on a donc les petites fiches hein, qui étaient donc qui émanent du ministère des Pensions, qui indiquent qu'effectivement un tel est mort. Hein, donc c'est une fiche très 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 simple. Donc ça c'est la première étape. Donc ça me dit le nom, l'unité dans laquelle il servait au moment de sa mort, la date de sa mort, le lieu de sa mort et savoir s'il était tué, mort de ses blessures, mort de maladie ou disparu. Voilà, donc ça donne quand même des indications assez précises. Après, je regarde pour chacun les registres matricules hein, qu'on a mis en ligne sur notre site internet, hein, donc sur le site des archives départementales. Donc là, c'est un deuxième travail parce que je cherche aussi les fratries. Or, pour savoir si on a des frères, il faut que je trouve évidemment les parents. Donc je regarde, donc je vérifie, puis je regarde aussi, je m'intéresse aussi à leur activité militaire, savoir où ils ont servi, combien de fois ils ont été blessés, où ils sont morts, dans quelles conditions, parce qu'ils peuvent mourir dans un hôpital oui, militaire, mais avoir été blessés un mois avant. Voilà, donc je m'intéresse donc à ces deuxièmes choses. Je regarde aussi leurs décorations. Les décorations, sont intéressantes en tant que telles, évidemment, mais les décorations, il y a évidemment la citation. Donc ça donne les raisons pour lesquelles on a donné une décoration à quelqu'un. Donc ça rappelle souvent, beaucoup sont à titre posthume, donc en fait on leur donne quand ils sont déjà morts, hein, mais ça rappelle les circonstances de leur mort. Une fois ce travail fait, je regarde maintenant, et depuis peu, puisqu'on les a mis en ligne récemment, les actes de décès dans chaque commune. Donc après, ce qui me donne des indications supplémentaires, par exemple leur épouse. Hein, qu'on peut trouver aussi le registre matricule parce que souvent, comme c'est des milieux modestes, on versait une aide aux épouses de 150 francs, hein, aux veuves en l'occurrence. Hein, ça dépendait du grade en fait. Hein, pour les plus bas, c'était 150, et puis si, en fonction des grades, on montait à 250, etc. Et puis les actes de décès donnent des fois des indications supplémentaires sur les circonstances précises du décès, blessé par balle. Au thorax, etc. Oui, donc, et puis enfin, une fois que j'ai fait tout ça, je me dis quand même, je vais regarder ce qu'on appelle les journaux démarches et opérations de chaque unité pour avoir des détails sur les circonstances de son décès, en l'occurrence par exemple une bataille, combien il y a eu de morts ce jour-là, etc. Donc vous voyez, c'est, pour chacun c'est très très long. Alors quand vous en avez 150, évidemment, ça met du temps. Quand j'en ai une dizaine, tout ce travail, il faut au minimum 2 jours vous voyez, pour le faire. Vous voyez. Donc 2 jours de travail. Voilà.
Deux jours pour 10 monuments
Pour 10 personnes.
10 personnes.
Voilà, 10 personnes. Voilà. Les monuments, en fait, pour le moment, les monuments, je les ai tous étudiés. Donc je les ai tous, pour eux, pour chacun, une description hein, de comment ils sont, quelquefois quand ils ont été érigés, parce qu'en fait il y a des dossiers aux archives départementales, hein, puisqu'il y a eu des demandes de subventions, j'en parlerai tout à l'heure. Donc vous voyez que des indications comme ça. Donc pour la partie monumentale, c'est assez clair. La seule difficulté, mais j'en parlerai aussi après, c'est leur implantation. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils ont pu bouger. Et en fait, j'ai été effaré par le nombre de monuments qui ont bougé. Vous voyez. Je pensais que vous voyez, c'est un peu la France éternelle. Vous voyez, on les pose, on les laisse là, et puis soit on les oublie un peu, on les oublie à certaines périodes, mais ils sont toujours là. Et en fait, pas du tout. Certains ont été détruits, remplacés ou déplacés. Alors, quelquefois, c'est un quart de tour. Vous voyez.
Ça me surprend, puisque ça a l'air tellement compliqué de déplacer, de faire admettre aux citoyens de faire déplacer un monument aux morts, comme c'était le cas pour Adigne, d'ailleurs.
Exactement, oui. Je sais que dans certaines communes que je ne citerai pas, il y a eu des débats assez houleux, dont la presse s'est fait écho, d'ailleurs, au moment où on a simplement même déplacé de quelques mètres, voire tourner simplement le monument. Voilà. Donc ça a été effectivement... C'était un débat. Quelquefois, on les déplace pour des questions tout simplement de parking, de cérémonie aussi. Hein. C'est un peu le cas de Digne. La question, c'est que la cérémonie bloque évidemment la circulation. Donc ça, c'est une vraie raison hein, pour laquelle on les déplace. On les déplace aussi parce que les voies changent. Et je suis en train de travailler sur un monument d'une commune où le monument est au milieu de la route. Puisqu'à l'époque, il était au bord de la route, puisque la route n'avait qu'une voie. Puis la route était dédoublée, donc le monument est pile au milieu de la route. Vous voyez. Donc là, évidemment, je crois, hein, on m'a dit qu'il y avait eu un projet de le déplacer, parce qu'il est vraiment au milieu de la route. Quoi. Voilà, donc c'est même pas un rond-point, hein, c'est carrément au milieu de la route, quoi, vraiment. Hein. Donc en fait, vous passez de chaque côté du monument en voiture, quoi. Voilà, selon dans quel sens vous circulez. Voilà, donc il y a, vous voyez, toutes ces questions, évidemment, liées à l'automobile. À l'époque, évidemment, ça ne se posait pas. On était dans des conditions très, très différentes. Voilà. Donc, je suis parti sur ce sujet. Et donc, évidemment, tout à l'heure, on parlait de la chanson de Souchon, hein, rame, rameur, ramé. Ben, je rame beaucoup, vous voyez, avec mes monuments. Mais je ne désespère pas de terminer quand même, puisque, voilà, après, il y aura un gros travail de relecture, évidemment. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a écrit un premier jet, vous savez, hein, il faut reprendre, modifier. Et puis, au fur et à mesure que j'avance, évidemment, je m'améliore. Vous voyez, enfin, j'espère m'améliorer. Donc, du coup, les premiers sont un peu moins bien faits que les derniers. Donc, j'ai entrepris aussi de reprendre tous les premiers. Vous voyez, j'en ai à peu près, on va dire, une centaine à reprendre. Vous voyez.
Donc, mais vous avez plus le temps de vivre à côté de ça.
Oui, en fait, c'est un peu difficile. Voilà, voilà. Alors après, on me laisse des fois du temps pour travailler. Voilà. Parce que, et puis, il y a des temps en dehors du temps de travail. Voilà, voilà. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, donc, on peut trouver des temps. En fait, il faut effectivement être tranquille. Parce que c'est, quand vous commencez à travailler là-dessus, il faut pouvoir le faire dans la durée, quoi. Sinon, il faut reprendre à chaque fois, c'est compliqué, on ne sait plus trop ce qu'on a fait, on ne sait plus, voilà. Et puis, surtout, quand vous faites l'étude, il faut vous penser en même temps à ce que vous allez rédiger, évidemment. Donc, voilà, donc il faut quand même que les deux événements, et l'idéal pour moi, c'est de rédiger immédiatement après avoir fait l'étude, quoi. Voilà, donc, voilà. Donc ça, c'est le projet. Voilà, donc le projet, c'est de faire un ouvrage qui sera très, très gros, puisque je suis, je crois, déjà à plus d'1,5 million de caractères pour la partie simplement des communes. Donc ça fera un ouvrage très, très épais, voilà, mais qui intéressera, j'espère, toutes les communes, puisque toutes les communes seront concernées, y compris celles où il n'y a pas de monument mort. Car il y a des communes dans le département, très peu, où il n'y a pas de monument mort. Alors soit parce que c'était des toutes petites communes et qu'elles n'avaient pas les moyens financiers, soit parce qu'il y a eu des plaques qui ont disparu depuis, soit tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de mort. Il y a trois communes dans le département où il n'y a pas eu de mort. Mais il y a eu quand même... Alors il faut nuancer. Qu'est-ce que ça veut dire pas de mort, en fait? Parce que, en fait, sur les monuments morts, vous avez à la fois... Normalement, le principe, c'est que soit on est né... Soit on habite en 1914 ou au moment de son incorporation, si on est un jeune et qu'on est incorporé en 1916, c'est la règle. Mais cette règle est très variable. Et donc il y a, sur les monuments, on trouve non seulement des natifs, évidemment, mais pas tous les natifs, car certains ont émigré, donc sont partis ailleurs. Alors soit on les retrouve aussi, soit ils ne le sont pas. Et puis on trouve des gens qui n'étaient pas de la commune, soit de commune voisine, soit même, là j'en ai un, qui est du Finistère, oui. Donc oui, il s'est retrouvé un peu par hasard dans une toute petite commune du département, enfin pas par hasard, mais pour des questions sans doute de travail. Hein. Et donc évidemment, il se retrouve aussi sur le monument. Donc en fait, sur les monuments, vous avez des gens qui sont nés, des gens, mais pas tous, des gens qui ne sont pas natifs, et puis quelquefois même... C'est indiqué, alors c'est très rarement indiqué, hein, comme on a choisi, quelquefois même les amis de la commune. Les amis de la commune. On a le cas pour une commune. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis des gens qui avaient une relation particulière avec la commune. Voilà, donc ce qui fait que c'est compliqué. Mais quand je fais mon étude, en fait, je ne m'intéresse pas seulement aux morts des monuments. Il y a aussi ce qu'on appelle les livres d'or. Alors, les livres d'or, c'était un grand projet national à l'époque, qui était l'idée de mettre au Panthéon les livres d'or de toutes les communes de France, donc qui répertoriaient tous les morts. Et donc il y a eu un énorme travail qui a été fait au niveau central, hein, l'administration centrale, pour essayer de répertorier tous les morts par commune, et puis avec un échange avec les communes pour voir si on était d'accord sur la liste qui était proposée. Or, le livre d'or, lui, est beaucoup plus restrictif. C'est-à-dire que lui, il considère qu'en fait, son mort... doivent être considérés comme morts de la commune ceux qui sont nés et qui habitaient dans la commune. Vous voyez, voilà. Alors, c'est important parce que c'est tout simplement pour éviter les doublons. Parce qu'en réalité, dans le département, on a beaucoup de doublons. C'est-à-dire, enfin, beaucoup. On a des personnes qui peuvent être sur deux monuments. Hein, ils peuvent être sur le monument de leur commune de naissance et puis ils peuvent être sur le monument de leur commune de résidence. Voilà. Donc, vous voyez, donc, tout est un peu compliqué. Et donc, mon jeu, c'est aussi de voir combien d'abord il y a de personnes sur les monuments. Mais ça, c'est assez facile. Hein, ça, j'ai le nombre. Mais quand il y a des monuments, hein, évidemment. Et quand il y a des monuments avec des listes. Par exemple, à Sisteron, sur le monument, il n'y a pas de liste de morts. C'est un monument sans liste. En fait, la liste, elle est dans l'ancienne cathédrale, dans l'église actuelle. Voilà. Et donc là, on a une liste. Je pense qu'à l'époque, ils se sont dit, ça ne sert à rien de mettre une liste, puisqu'on on a la liste du monument de la paroisse, qui n'est pas le monument civique. Moi, je m'intéresse au monument civique. Je ne m'intéresse pas au monument de paroisse. Je m'intéresse peu au monument des paroisses, sauf si dans l'église, c'est le monument de la commune, ce qui peut arriver aussi, hein, la plaque de la commune, ce qui arrive, vous voyez, ce qui normalement n'est pas possible. Et bon, voilà. Voilà, donc vous voyez, tout ça est un peu compliqué. Donc ce qui fait que je n'arrive pas de recompter mes monuments sans arrêt. Hein, et puis on m'en découvre. Il y a d'autres personnes dans le département qui travaillent sur les monuments, qui m'en trouvent. Voilà, on en a trouvé un récemment que je ne connaissais pas, qui était dans la cour d'une ancienne école, qu'on m'a signalé en fait. Et effectivement, il y a un petit monument. Voilà. Donc voilà. Donc c'est un jeu, vous voyez, c'est un jeu de piste. Et évidemment, quand le livre sortira, on dira, mais vous avez oublié ce monument-là. Ça c'est sûr. J'aurais oublié des monuments. Ça c'est. Voilà. Mais bon, j'en aurai quand même presque 100%. Voilà. Donc voilà. Alors, ces monuments, quand ont-ils été dressés? Alors la plupart, c'est l'entre-deux-guerres, évidemment. C'est un phénomène qui commence et qui est massif, hein, vraiment, qui concerne tout le monde, qui est concomitant et qui démarre dans les années 1919-1920. Beaucoup en 1920, on voit beaucoup de délibérations de cette période, où on crée ce qu'on appelle un comité d'érection, car ce n'est pas la commune qui monte le monument, c'est le comité. Et ce comité, en fait, est chargé non seulement de la partie, j'allais dire, de l'élaboration, mais aussi du financement. Car les monuments, il faut les payer. On est dans un département qui est pauvre. Et si on veut un monument, il faut de l'argent. Or, les communes ont peu de moyens et en général, d'ailleurs, contribuent assez peu. En fait, l'essentiel vient des souscriptions. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les familles, les élus qui donnent de l'argent pour permettre aux communes d'avoir des monuments. Après, il y a une subvention de l'État. Mais cette subvention de l'État est tellement minime que Honora, hein, qui est député, sénateur et ministre de l'Instruction publique, écrit en fait au préfet disant « Mais c'est ridicule, il vaudrait mieux ne pas donner une subvention tellement elle est ridicule, parce que c'est montrer justement le fait que l'État ne fait pas un gros effort. Donc autant ne rien donner, quoi. » En fait, la subvention de l'État dépend de l'engagement de la commune financier, combien la commune met au pot, mais aussi de sa richesse. Donc évidemment, plus elle est pauvre, plus le taux de subvention est élevé. Et enfin, du nombre de morts par rapport au nombre d'habitants en 1911. C'est-à-dire que plus il y a de morts, plus la subvention est élevée. Voilà. Oui, donc c'est un peu bizarre comme calcul, hein, voilà. Mais c'est la règle. Voilà. Donc vous avez souscription commune et subvention. Et puis il y a aussi, on fait des opérations spéciales. C'est-à-dire que par exemple, lors de mariage, alors, il y a des quêtes, hein, voilà, par exemple lors d'un mariage, mais aussi on crée par exemple une pièce de théâtre, une représentation théâtrale dont les gains iront au monument. Il y a à Digne un petit concours où une jeune fille gagne, qui est déguisée en papillon, hein, gagne le concours de déguisement. L'argent qu'elle gagne, elle le donne, hein, pour le monument aux morts. Voilà. Les Mexicains ont financé beaucoup, hein, les Mexicains entre guillemets, hein, les Mexicains ont beaucoup financé le monument de Digne, hein, entre autres. Voilà, oui, en fait, oui. Voilà, donc, voilà, il y a, oui, différentes sources, mais dans une toute petite commune, en général, ça se limite à la souscription, à l'aide de l'État et à l'aide et au vote d'un crédit de 1 000 francs, 2 000 francs de la commune.
On sait pourquoi les Mexicains ont aidé pour le financement de Digne.
Parce qu'en fait, quand on alors, c'est un peu compliqué. Donc, je ne voudrais pas lancer.
Bon, d'accord.
Ça. Voilà, mais c'est un peu compliqué. Alors, d'abord, parce
c'est que surprenant.
Quand on dit les Mexicains, il n'y a pas que les Mexicains de Lubaï, déjà, mm-hmm. Il y en avait partout. Hein. Voilà, alors, c'est vrai que c'est un phénomène massif en Lubaï et connu, mm-hmm. Mais on en trouve dans tout. Voilà. Et puis, il y a peut-être, on va dire, la question du rachat. Vous voyez, là, on rachète quelque chose. Voilà. Mm-hmm. Mais bon, c'est un peu d'accord. Compliqué. C'est un autre sujet. Voilà,
d'accord.
Voilà. Voilà. Donc il y a comme ça des aides qui viennent effectivement permettre, parce que les monuments c'est cher et on est dans une période inflationniste, hein, où les coûts augmentent très largement, ça a augmenté déjà pendant la guerre, évidemment, à cause de la guerre, mais donc du coup c'est une charge très lourde pour les communes, et ce qui fait que souvent les projets qui étaient élaborés dans les années 20 mettent du temps à s'installer. C'est plutôt en 23, 24, 25 qu'on commence vraiment à voir des monuments s'élever dans le département. Voilà, hein, des petits monuments. Alors, comment sont-ils, ces monuments? En fait, le plus connu, la forme la plus connue, c'est celle qu'on voit en général dans les communes quand on se déplace, c'est ce qu'on appelle la pyramide sur piédestal. Voilà. Hein, donc, en fait, c'est une forme classique, hein, pyramide. Donc, en fait, on dit pyramide, c'est un obélisque, en fait. Hein, c'est l'équivalent de l'obélisque, posé sur un piédestal. L'obélisque, en général, supporte... Alors, quelquefois, il termine en pointe de diamant. Il supporte des décors, hein, on en parlera après. Et puis, le piédestal, en général, c'est lui qui porte la plaque où sont gravés les noms, où les noms peuvent être gravés directement hein, sur le piédestal. Quelques marches, et on ceint le monument d'une grille, hein, ce qu'on appelle une grille en fer forgé, tout simplement parce qu'on définit un espace sacré dans lequel on ne doit pas rentrer, hormis lors des cérémonies hein, où on dépose des fleurs, hein, on ouvre la petite porte, le portillon, et on peut déposer quelque chose. Mais sinon, on ne rentre pas. Parce que ça, la question du monument, il y a la question de la décence. C'est-à-dire qu'en fait, le monument, il doit être protégé. Par exemple, à l'Ajavi, il est installé donc, où il est aujourd'hui à peu près. Hein, il s'est un peu déplacé quand même, hein, parce qu'en fait, il était à équidistance entre la mairie à l'époque et l'église pour des questions diplomatiques, hein, pour dire les choses. Hein, il y avait des conflits voilà, entre les deux entités. Voilà. Donc on l'a mis exactement entre les deux. Et en fait, c'est une place où il y avait du fumier, etc. Donc le maire prend des arrêtés pour justement que ça soit propre, etc. Il y a une autre commune où on a un vrai conflit, mais qui est aussi un conflit politique, hein, qui est, voilà, en fait, c'est un prétexte sans doute, où ce qu'on appelle les monuments fontaines. Il y a des monuments qui sont aussi des fontaines. Hein. C'est le cas, par exemple, à Entrevaux. Alors, Entrevaux, maintenant, la fontaine ne marche plus parce que le monument était déplacé. Hein. Il n'est pas à sa place actuelle. Il était en bas, maintenant, il est en haut. Mais c'était des monuments fontaines. Et dans une des communes du département, non seulement il était fontaine, mais il était abreuvoir. C'est-à-dire qu'en fait, les animaux venaient boire. Voilà. Alors, il y a des gens qui s'en plaignaient en disant, quand même, pour la question, honorer nos morts, vous allez faire venir des animaux qui vont boire, et en plus, des charretiers qui vont jurer. Vous voyez, donc, voilà. Donc, il y a un conflit. Voilà. Et dans cette commune... Alors, finalement, ils ont fait leur monument fontaine. Mais je pense que du coup, en compensation, parce qu'il y avait un vrai conflit, hein, ils ont fait aussi un monument au cimetière. Donc il y a deux monuments. Parce que quelquefois, il n'y a pas qu'un monument. C'est ça aussi le problème, c'est que vous avez deux monuments qui ont été dressés en même temps et quelquefois faits par les mêmes, hein, le même fabricant. Voilà, pourquoi ? Parce qu'en fait, je parlais des formes. Alors, je continue sur les formes. Vous avez la stèle, hein, comme j'évoquais, qui en général est une plaque. Vous avez aussi le monument qui ressemble à une tombe, hein, qui est donc dans un cimetière, hein, en général. Voilà. Donc, vous avez oui, plusieurs types de mouvements. Parce qu'en fait, le monument, le type, dépend aussi de la volonté des habitants et aussi des anciens combattants d'afficher quelque chose ou pas, ou de lui donner... une certaine valeur. Alors, en général, c'est la place publique. C'est la place publique, pourquoi ? Parce qu'on veut que le monument soit vu par tout le monde. Il faut se rappeler quand même que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de disparus pendant la guerre. Ces disparus n'ont pas de tombe. Et le monument aux morts est un peu la tombe de ces disparus. Mais ça permet aux familles d'avoir une tombe. Et donc, dans ces cas-là, on veut montrer le sacrifice aussi consenti par la commune, c'est le cas à Digne, hein, à Digne, le monument, il était à l'endroit le plus circulant, en fait, hein, où les gens le passaient, où les gens de l'extérieur venaient, passaient par là, donc ils pouvaient voir, effectivement, le sacrifice consenti par les habitants de Digne pour la guerre de 14-18. Donc il y a cette volonté-là. À Digne, d'ailleurs, il y a cette polémique, hein, enfin, justement, savoir si on le met dans un endroit très passager, ou au contraire, on le met au cimetière. Parce qu'il y a aussi, pour certains, mais c'est un monument aux morts. C'est donc une tombe. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on le met au cimetière. L'autre raison pour le mettre au cimetière, c'est la question des décors. C'est-à-dire que si on le met au cimetière, on peut mettre des symboles religieux. Or, la loi de 1905, décembre 1905, interdit les signes religieux dans l'espace public. Alors, elle n'est pas rétroactive, hein, c'est à partir de la promulgation de la loi. Mais donc, en principe, je dis bien en principe, un monument mort ne peut pas supporter de symboles religieux, en particulier des croix, et en particulier une croix latine, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a des communes où vous avez, même si on est dans l'espace public, des croix qui ont été gravées, posées, ou même un peu cachées. C'est le cas dans une commune de Lubaye, où vraiment pour trouver la croix, Il faut vraiment faire un effort, elle est cachée dans un entrelac de elle est gravée en fait, hein, dans un entrelac de décor végétal, et en fait quand on regarde bien, on voit une croix. Vous voyez, voilà. À Entrevaux, par exemple, je parlais d'Entrevaux tout à l'heure, Entrevaux, le monument a été élevé sur un ancien cimetière, donc en bas de la ville, où il y a aujourd'hui les places, la place publique et les cafés, quand on va à la route de Nice, tout le monde connaît, hein, où on s'arrête en général, voilà. Eh bien, il y a une énorme croix qui est en bas-relief sur le monument. Et elle est tellement énorme qu'on ne la voit pas, en fait. Voilà. Il faut vraiment faire attention au fait qu'il y a une croix. Il y avait eu comme ça un service patrimonial qui en avait fait la description, alors qu'il décrivait dans toutes ses composantes, et qui a oublié de dire qu'il y avait une croix. Parce qu'en fait, elle est tellement grande et elle est tellement discrète à la fois que vraiment, il faut être attentif. Voilà. Donc il y a la question des croix. Après, il y a des ruses. On met pas une croix parce qu'on n'a pas le droit, mais on met une croix de guerre. Et la croix de guerre, c'est donc la décoration emblématique des poilus de 14-18. Donc ça, c'est tout à fait possible de la mettre, mais c'est une croix. Et donc du coup, ça fait voilà, on fait d'une pierre deux coups. À la fois, on met donc ce qui est tout à fait important pour les poilus, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de croix de guerre qui ont été distribuées quand même, hein, et beaucoup, comme je disais, à titre posthume. Mais en plus, on règle le problème, on met une croix. Et quand on le fait, vraiment, quand on veut vraiment le faire de manière très visible, on la met au-dessus de l'obélisque, en sculptée en rond de bosse, c'est-à-dire qu'en fait, elle se détache. Hein, et donc là, pour le coup, elle n'est pas gravée, vous voyez, ou ce n'est pas la gravure réelle de la croix de guerre, hein, c'est une croix de guerre stylisée. Quelquefois même, elle est tellement stylisée qu'elle ne ressemble plus trop à une croix de guerre. Voilà, donc vous voyez, ce sont des techniques pour justement un peu contourner la difficulté du symbolerie. La seule condition, la seule fois où on peut effectivement y mettre des symboles religieux, il y a un cas. C'est quand le monument mort prend la place d'un calvaire qui est abîmé. Il y a ce cas-là dans une commune, enfin dans plusieurs communes, mais je pense à un cas très précis où c'est le curé, hein, qui a été l'un des promoteurs du monument. Donc on a démonté le calvaire, on a mis à la place un monument mort, donc il y a des symboles religieux, mais normalement le calvaire est remplacé, sauf que lui a fait démonter le calvaire et il a remonté ailleurs. Vous voyez, donc il a un peu, là aussi, il s'est un peu arrangé avec la loi. Voilà, donc c'est le seul cas. Il y a d'autres communes, hein, où ça a été fait comme ça. On prend la place. En plus, l'avantage, c'est que quand on a un calvaire, en général, on a déjà une base. Vous voyez, donc au niveau des coûts, ça limite aussi les frais. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a la base, on n'a plus qu'à poser quelque chose dessus. Alors, dans une autre commune, on a mis un poilu. Voilà, mais on a quand même déplacé un tout petit peu le calvaire pour lui trouver une place. On l'a déplacé que de quelques mètres. Voilà. Après, il y a des monuments qui sont aussi dans les écoles. Et même quelquefois dans la cour de l'école. Donc, dans ces cas-là, on demande à l'inspecteur d'académie l'autorisation. On le met dans l'école tout simplement pour que les enfants voient, hein, justement le sacrifice de leurs parents et que ce sacrifice se perpétue dans le temps. En fait, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'idée, il y a quand même le monument, c'est quelque chose qui doit durer en fait, voyez. Donc ça s'inscrit dans le temps et donc il faut que chaque génération puisse voir justement ce sacrifice. Et donc l'école évidemment est un lieu privilégié pour ça. Alors si on ne met pas dans la cour de l'école, des fois on le met face à l'école, voyez. Et puis quelquefois, vous savez, les mairies sont écoles aussi à l'époque. Hein, c'est un mouvement qui date des années 1880 en fait, hein, où on a fait des mairies et des écoles, hein, suite aux lois sur l'école. Et donc c'est très facile. Quelquefois même, c'est une plaque. Là récemment, je suis allé dans une commune la semaine dernière où la plaque est posée sur la mairie-école, vous voyez, à équidistance entre l'entrée de l'école, qui est à gauche, enfin de l'ancienne école, puisque maintenant c'est plus une école, et de la mairie qui est à droite. Voilà, oui, on trouve comme ça différentes possibilités, hein, sur l'emplacement du monument. Mais c'est un sujet très débattu.
Et c'est passionnant tout ça. On fait une pause musicale ?
Oui.
Allez. I trapped a spider underneath the glass. I kept it for a week to see how long he'd last.
Voilà, donc on reprend sur les monuments. Oui. Voilà, donc j'étais en train donc d'évoquer la question de l'emplacement, hein, qui est très importante. Je disais qu'il y a effectivement quelques monuments qui ont été des plaques qui ont été mises dans les églises, alors qu'en fait c'est la plaque communale, hein, c'est bien quelquefois même indiqué, c'est la commune d'eux, c'est pas la paroisse d'eux. Vous voyez, ce qui posait évidemment quelques difficultés quand il s'agissait de faire des cérémonies. On ne peut pas faire une cérémonie civique dans une église, voilà. Donc, ce qui fait que dans ces cas-là, les communes ont refait un deuxième monument, beaucoup plus récent, hein, dans un espace tout à fait neutre. Voilà. J'évoquais tout à l'heure aussi... alors, la question de l'emplacement me pose problème, en fait, hein, puisque, comme je le disais, je n'imaginais pas que nos monuments étaient sur roulettes, vous voyez, hein, donc ils se déplaçaient assez facilement. Et donc, évidemment, toute personne, hein, qui nous écoute et qui a des informations sur un déplacement ou une modification d'un monument, évidemment, qu'il n'hésite pas à nous en faire part en nous écrivant aux archives départementales. Évidemment, je serais très heureux d'avoir avoir ces informations-là, parce que c'est une, pour moi une difficulté, puisque la question, c'est toujours la question de la mémoire. Hein, c'est-à-dire que quand c'est très récent, on peut trouver facilement l'information, mais quand c'est ancien, c'est très très difficile. Voilà. Il y a aussi des monuments, je le disais, qui ont été détruits. C'est par exemple celui de Fort Calquier. Fort Calquier, il y avait un immense monument qui était au centre de la place, la grande place de Fort Calquier, qui a été détruit. Dans d'autres communes aussi, on a ce cas-là. Je pense par exemple à la mode du Caire. Hein. Donc à la mode du Caire, vous aviez un monument très classique, obélisque sur pédestal, avec la tête d'un poilu à son sommet, et qui a été remplacé par un monument plus pacifiste, hein, donc, qui concerne d'ailleurs les deux guerres mondiales, pas seulement la Première Guerre mondiale.
Donc à chaque fois que c'est démoli, il y a un autre quand même qui...
Alors,
qui remplace.
Oui, exactement. Bien sûr, oui. Il y a dans les communes, évidemment, quand on a une démolition, on a un autre monument, c'est le cas à Fort Calquier. C'est le cas aussi à la mode du Caire, comme je viens
et
de vous dire.
Et ça aussi, pour le faire accepter...
Alors, voilà. Alors ça, c'est aussi, effectivement, c'est aussi un débat. Et moi, quelquefois, je n'ai pas les éléments du débat. Soit parce que ça n'a pas laissé de traces, hein, tout simplement. Soit parce que ce sont des délibérations communales que je ne connais pas, puisqu'il n'y a pas eu... une démarche forcément officielle. Donc voilà, donc vous voyez, c'est vraiment une difficulté. Cette question des remplacements, des déplacements, c'est vraiment pour moi peut-être la chose la plus difficile à résoudre. Il y a aussi les monuments un peu oubliés, vous savez, hein, les petits monuments. Vous avez des communes où il y a, je disais donc, plusieurs monuments. Alors, je parlais tout à l'heure de ces communes qui ont un monument civique et un monument au cimetière. Mais vous avez des communes qui ont aussi des monuments dans les hameaux. Hein, des plaques dans les hameaux. Hein, en fait, il y a dans certains endroits, ou même des monuments d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que vous avez un effet très local. Hein, c'est-à-dire que vous avez la commune, mais une commune qui est très dispersée, avec un habitat très dispersé. Et donc, les hameaux ont pu construire leur propre monument ou avoir mis une plaque sur un édifice quelconque. Voilà. Donc, vous voyez, donc, c'est compliqué. On pense des fois trouver le monument, et en réalité, il y en a un autre ou deux autres qui sont cachés et qu'on ne voit pas. Voilà. Donc, je parlais des décors, donc je parlais tout de suite là, avec la mode du Caire, du poilu, la tête de poilu. Vous avez des monuments, donc effectivement, les plus élaborés, c'est ceux qui ont des statues ou des groupes de statues. Hein, c'est le cas évidemment à Digne, c'est le cas à Château-Arnoux, un monument sur lequel peut-être on pourra tout à l'heure parler, parce que c'est un monument tout à fait atypique. C'est le cas à Riez aussi, hein, où vous avez très très belle, un très beau monument. Alors c'est drôle parce que les personnes, je parle un peu comme ça, hein, avec des personnes qui connaissent Riez, et récemment, une personne qui va régulièrement à Riez ne savait même pas où était le monument, alors qu'en fait il est en plein milieu, sur la place publique, vous voyez, au bord de la route, en fait il est immanquable, mais en fait on ne les voit plus. C'est tout le problème, en fait. Hein. Alors j'espère que ce travail permettra aussi aux uns aux autres de dire qu'au fond, on a un monument. Je l'ai fait dans certaines communes. J'ai fait des conférences, mais on en parlera aussi, parce que j'en ferai une bientôt, des conférences devant le monument. Et les personnes sont toujours étonnées, en fait, de voir la richesse du monument. Vous voyez, en fait, ils voient un monument. Hein, ils voient des noms, mais ils ne voient pas tous les détails du décor, les circonstances, etc. Et donc, il y a aussi cette entreprise de... Alors, pas de réhabilitation, parce que les monuments, quand même, il y a les cérémonies civiques, hein, et patriotiques qui sont très importantes, mais qui concernent en général peu de personnes, quelquefois aussi quand même les enfants des écoles, mais simplement de regarder son monument, voilà. Et quelquefois se dire, mais où est-il ? Voilà. Et même s'il crève les yeux, vous savez, hein, c'est le problème de l'habitude, en fait. Hein. En fait, on ne voit plus les choses. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie monument, emplacement, etc. Maintenant, il y a la question du décor. Donc je disais, donc, les groupes de personnes, c'est évidemment des monuments originaux, qui sont en général chers, puisque pour le coup, quand c'est un groupe de personnes ou un groupe ou une personne sculptée, c'est évidemment un travail original d'un sculpteur, et donc évidemment les prix sont beaucoup plus élevés. Autrement, le truc le plus classique, hein, l'élément le plus classique, c'est de mettre un poilu. On met un poilu. Alors, on a différentes formes de poilu. Alors, ce sont évidemment des constructions industrielles. Hein. C'est évidemment du business, là, pour le coup. Vous avez le poilu. Alors, le plus souvent, celui qu'on trouve, c'est le poilu qui monte la garde. Hein, donc, il a l'arme au pied. Et il a les yeux fixés, hein, alors je ne sais pas si c'est sur la ligne bleue des Vosges, hein, voilà, pour reprendre aussi une expression avant la guerre, mais en tout état de cause, c'est la forme la plus classique du poilu, donc il est en métal, fonte, etc. Quelquefois, on a un poilu beaucoup plus vindicatif, voilà, qui donne une connotation différente, évidemment, au monument. Quand vous avez un monument où le poilu est paisiblement en train de monter la garde, on n'a pas la même, évidemment, on ne trouve pas le même sens au monument que quand on a un poilu qui est en train de monter à l'assaut. Hein, voilà. Il y a des éléments qui donnent une connotation patriotique, voire nationaliste au monument. Et dans ces éléments-là, on a le coq. Quand vous avez un coq, là, vous pouvez dire qu'on a, réellement un monument... un peu de la revanche, vous voyez, hein, le monument nationaliste. On avait d'ailleurs, dans une commune, je crois que c'est Perruy, oui, un coq qui dans ses griffes, serrait en fait un aigle, évidemment l'aigle allemand. Voilà. Donc là, pour le coup, vous voyez, l'interprétation est tout à fait facile à faire. Voilà. Alors, cet aigle a une histoire que je pourrais raconter, mais qui est un peu longue, donc je laisse passer. Mais voilà, vous avez... parce que vous avez raison, ça a posé un problème, évidemment, avec l'occupation allemande. Hein, voilà. Voilà, donc il y a ce type de monument-là. Les monuments aussi étaient des fois agrémentés par ce qu'on appelle des trophées de guerre. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement il y avait le monument... Non seulement il y avait sa grille, mais il y avait aussi donc des trophées. Alors on en trouve encore beaucoup. Ce sont les obus, hein, les obus qu'on voit qui servent de piliers en général, soit des chaînes, etc., qui sont aux quatre coins du monument. Ce sont des obus allemands qui ont été récupérés sur les stocks allemands, regroupés à Strasbourg et ensuite distribués. À la demande des communes, la France entière. Alors, on connaît encore l'obus. Alors, si on n'a pas l'obus, quelquefois, on symbolise l'obus par une sculpture en pierre qui a une forme d'obus. C'est un obus, en fait, mais c'est une représentation. Mais en fait, à l'époque, on n'avait pas que des obus. On y mettait aussi des mitrailleuses, des armes, en fait, et même des canons. Et à Digne, le monument était entouré de quatre canons, pour bien rappeler non seulement que la patrie triomphante, hein, évidemment, hein, de l'Allemagne, hein, de l'Empire allemand, quand même, hein, qui, voilà, mais aussi de dire voilà, qu'on avait des prises de guerre, en fait, hein, dire la symbolique de la guerre, en fait, hein, qui était signifiée. Bon, après, évidemment, on les a enlevés, on les a mis, je crois, devant le musée Gassendi, ça gênait tout le monde, et un jour, ils ont disparu. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, ça, c'est encore un sujet à éclaircir, voilà, mais il y avait quatre canons, et on voit bien sur les photos, hein, ces quatre canon qui était posé de part et d'autre du monument, hein, donc qui entourait le monument. Voilà, donc il y a aussi ce type de décor. Et puis on a les décors beaucoup plus classiques, ceux qu'on trouve sur les monuments funéraires. Par exemple, les palmes. Alors les palmes, c'est pareil, c'est ambigu. La palme, c'est la palme évidemment du vainqueur, hein, qu'on connaît, mais c'était aussi la tribu des martyrs chrétiens. Vous voyez, donc là, on joue un peu déjà sur l'ambiguïté. Et puis, dans le décor végétal, on trouve aussi fréquemment des branches de chêne, branches de laurier. Alors, quelquefois même associées, hein, donc, comme une couronne, hein, vous savez, là, hein, vous voyez César, rentrant, voilà. Eh bien, en fait, évidemment, là, c'est les vainqueurs qu'on honore, en fait, hein, tout simplement. Et c'est intéressant, parce qu'il y a des entreprises de description des monuments morts qui sont faites, hein, en particulier l'Université de Lille a l'ambition, il y a un projet donc, qui a pour ambition de faire, en fait, un inventaire exhaustif de tous les monuments aux morts en France, et ailleurs, d'ailleurs, hein, dans les autres lieux, mais à partir de bénévoles. Hein, donc les bénévoles décrivent les monuments. Et souvent, il y a une confusion. Alors c'est intéressant, la confusion, c'est que souvent, au lieu de voir du laurier et du chêne, ils y voient de l'olivier. Alors évidemment, ce qui pose problème, parce qu'en fait, ce n'est pas du tout de l'olivier, déjà, parce que si c'était l'olivier, évidemment, c'est un symbole de paix. Vous voyez. Or, le monument est rarement et rarement un symbole de paix, hein, évidemment. Sauf dans un cas ou deux, comme Château Arnoux. Château Arnoux, c'est un vrai monument pacifiste. Hein, c'est un vrai monument où on déplore, évidemment, la mort des soldats. On y voit une mère qui pleure, hein, voilà, etc. Donc là, vraiment, là, on a un monument, pour le coup, clairement pacifiste, d'autant plus qu'il y a un texte qui l'accompagne, hein, qui rappelle, hein, ce sacrifice et l'horreur de la guerre, en fait. Hein. Voilà. Donc, mais à part ces cas très, très particuliers, c'est extrêmement rare qu'on ait des éléments qui rappellent le pacifisme, puisque le monument, je disais, c'est plutôt dans les années 1920, le début des années 1920. Ce n'est pas encore le grand mouvement pacifiste qui vont se développer, effectivement, en particulier parmi les anciens combattants, hein, qui sont les garants, justement, et qu'on voit, par exemple, avec Genot, hein, ce qui est tout à fait symptomatique. Eh bien, ce n'est pas encore le cas. Il faut penser quand même que les monuments aux morts, quand on les inaugure, quand on les crée, quand on les inaugure, il y a les anciens combattants qui sont là, mais il y a aussi les familles qui ont perdu leurs enfants, leurs enfants ou leurs enfants, hein, puisque quelquefois on a un, deux, trois frères qui ont été tués, même quatre frères qui ont été tués à la guerre. Donc vous voyez, donc le deuil absolument considérable. Et donc évidemment, on n'envisage pas encore à ce moment-là, hein, cette question, le monument aux morts de Château Arnoux, par exemple, est plus tardif. Oui. Et donc, lui, évidemment, peut tout à fait intégrer, comment dire, une nouvelle dimension idéologique, en fait, hein, qu'on n'a pas en 1920, quoi. Oui, en 1919-1920, quand on fait les monuments. Voilà, donc, vous voyez, il y a beaucoup à dire sur les monuments, sur leur interprétation, sur la manière dont on les conçoit, sur la manière dont qui les conçoit. Et tout à l'heure, je parlais du cas de la Javie. Là, on a un vrai conflit entre le curé du village, qui voudrait que le monument soit contre son église, devant son église, et d'autres personnes de la commune qui considèrent que ce n'est pas possible. Voilà. Et d'ailleurs, à ce moment-là, on s'en retourne vers le préfet qui dit, mais écoutez, c'est votre problème, débrouillez-vous, arrangez-vous entre vous, essayez de trouver... voilà, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est pour ça qu'on l'a mis à équidistance entre les deux symboles, en fait. Hein, de la République, c'est la mairie-école, en fait, puisque c'est une mairie-école, et de l'autre, donc, et de l'autre, l'église. Voilà. Voilà. Je vais parler aussi, tout à l'heure, des monuments qu'on trouve dans les églises. Quelquefois, ils sont très, très impressionnants. Hein, on en a comme ça dans des communes pas très loin de Digne qui sont des très très beaux monuments. Fort-Calquier, il est très impressionnant aussi, parce que les paroisses et les paroissiens ne sont pas restés à l'écart de ce grand mouvement, hein, de construction des monuments. Alors évidemment, dans une église, en général, ça se limite à une plaque. C'est un peu compliqué de faire un monument, mais quelquefois, on a des constructions beaucoup plus sophistiquées, hein, qui rappellent les morts de la paroisse, qui n'est pas forcément la même chose que la commune. Alors, quelquefois, on a une concordance totale, hein, mais quelquefois, j'allais dire, est-ce qu'il y a des mauvais paroissiens, hein, ou des gens qu'on ne considère pas de la paroisse, parce qu'ils sont partis, parce que, etc. Et donc, ils ne les sont pas. Voyez, donc, on peut aussi faire des comparaisons. Bon, ça, c'est un peu compliqué, parce qu'il faudrait trouver la raison pour laquelle un tel y est ou n'y est pas. Voilà. Parce que la question, comme je le disais en préambule de cette émission, la question, c'est comment on a choisi les morts. Et l'une des questions, c'est... je disais, c'est montrer le sacrifice de la commune. Or, donc, pour montrer le sacrifice, il faut qu'il y ait des morts. Et donc, on a eu, sans doute, quelquefois, un peu tendance, vous voyez, à ajouter des morts pour un peu conforter la liste. Vous voyez ce que je veux dire ? Considérant qu'il n'y avait peut-être pas assez de morts dans la commune. Hein, parce qu'il n'est pas question que, par rapport à la commune voisine, vous voyez, on soit moins bien, hein, que la commune. Et donc, moi, je m'intéresse évidemment aussi à ce rapport qu'il y a entre le nombre de morts réel, on va dire, le nombre de morts déclarés et la taille de la population 1911. Alors c'est un peu compliqué parce que, en fait, vous savez, il y a l'exode rural. Hein, donc la population 1911, c'est pas celle de 1914. En fait, en 1914, il y a encore un peu moins d'habitants. Enfin, c'est une comparaison générale et donc ça donne un élément de qu'on peut comparer pour toutes les communes, même si, évidemment, la population de 14 est inférieure. Et donc, le ratio, le nombre de morts par habitant est plus important, évidemment. Voilà. Mais on est, dans le département, en moyenne, autour de 3,6%. C'est-à-dire, en fait, en gros, 3,6% de la population départementale a disparu pendant la guerre. Je le disais, soit tuée, soit mort de ses blessures. Alors, quand je dis tuée, c'est ce que disent les documents, mais quand ils disent ça, soit on est tué sur le coup, soit on meurt de ses blessures, mais sur le champ de bataille. Et pour eux, c'est tué. Hein, c'est-à-dire, il a été tué. Et quand on prend justement les actes de décès, on s'aperçoit qu'en réalité, il était blessé, mais qu'il est mort de ses blessures pendant la bataille. Et donc, on l'a pas. Parce que quand on dit blessé, en fait, c'est qu'en réalité, il a été déplacé vers un centre de secours de soins. Alors, soit ce qu'on appelle une ambulance militaire, soit. Donc, il y a plusieurs termes. Tout dépend, en fait, de l'éloignement ou non du front. Soit dans un hôpital, etc. Oui, un hôpital complémentaire, un hôpital auxiliaire, un hôpital militaire, un hôpital mixte. À Digne, par exemple, on a un hôpital mixte, c'est-à-dire qu'à la fois civil et militaire, voilà, etc. Donc là, ça, c'est pour les blessés. Et mon étonnement, c'est aussi de voir le nombre de gens qui sont morts de maladies. Je n'imaginais pas, dans le nombre de morts, alors évidemment, j'aurai le calcul quand j'aurai tout fini, le nombre de morts de maladies. Alors, les maladies, en fait, c'est les maladies classiques de l'époque, c'est la tuberculose, hein, qui est très, très fréquente. Mais c'est aussi des maladies, alors les chèvres typhoïdes, vous voyez, des maladies qui sont liées aussi aux conditions de vie des poilus, le froid, parce qu'il faut s'imaginer, hein, dans les tranchées, quand il y a de l'eau, c'est gelé, et vous restez en plusieurs jours dans la tranchée, etc. Faut vraiment, et en plus on tire dessus, hein, c'est quand même un peu difficile. Voilà, il y a toutes ces conditions, et donc là aussi c'est un vrai sujet, voir un petit peu la proportion de tués, de blessés, et puis il y a quelques suicides, ce qui n'apparaît jamais. Et parmi ces suicides, qui normalement ne sont pas morts pour la France, puisqu'ils se sont suicidés, sont quand même sur les monuments. Oui, c'est vraiment. Et oui, parce que.
Il y a une justice, alors.
Et voilà, non, mais on ne peut pas. Moi, je dis toujours, imaginons les familles à l'époque qu'on enlèverait, qu'on ne mettrait pas leur fils, qui a été quand même sur le front, qui a combattu, certes. Qui s'est suicidé? Alors, il y en a un qui s'est pendu dans un arbre, un autre qui s'est jeté sous un train. Vous voyez? Alors, voilà les formes classiques de suicide, en fait. Hein. Un autre qui s'est tiré une balle. Évidemment, on n'imagine pas qu'on ne puisse pas mettre son nom sur le monument. Y compris, d'ailleurs, je disais, ceux qui ont été réformés quelquefois et qui meurent d'une maladie qui n'a pas de rapport avec le service. On les met quand même sur le monument, puisqu'ils ont fait la guerre, vous voyez? Voilà, donc je dis, c'est une. Les listes, c'est une. Il y a un principe, mais en réalité, il y a une pratique qui dépasse largement les principes, parce qu'il faut tenir compte, évidemment, des populations qui vivent sur place. Et donc, ça, c'est un élément aussi très important. On a aussi deux des trois fusillés de la guerre. Il y a eu trois bas alpins qui ont été fusillés, deux sont sur des monuments morts. Vous voyez, donc, vous voyez, c'est vraiment. Il faut voir le deuil des familles. Et d'ailleurs aussi, on peut avoir sur un monument des enfants qui n'ont pas été dans la commune, qui n'ont jamais été dans la commune, mais dont les parents vivent dans la commune au moment où on crée le monument. Et évidemment, on met les noms des enfants. Voilà, même s'ils n'ont pas de rapport direct de leur vivant avec la commune. Vous voyez, donc voilà, c'est un peu compliqué. Hein, c'est vraiment. Alors ça, c'est évidemment très difficile à percevoir, parce que comment on peut. Donc, je travaille aussi. J'utilise aussi les recensements de population. Les recensements de population qui me permettent. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, hein, dans ce que j'utilise dans la méthodologie, ça me permet aussi de voir les fratries, en fait. Hein, par exemple, hier, je travaillais sur deux frères. Hein, c'était les deux seuls garçons de la famille, vous voyez, qui ont été tués à la guerre. Voilà, il restait deux sœurs, voilà, hein, qui étaient quatre enfants. Un autre, sept enfants, quatre garçons, deux tués à la guerre, dont l'aîné est le plus jeune. Vous voyez, voilà, on a toutes les conditions. Et donc ça, c'est les recensements qui me permettent de dire comment étaient constituées les familles, puisqu'il y a aussi les filles, etc. Voilà. Donc les recensements permettent aussi d'identifier certaines personnes. Quelquefois, je n'arrive pas à savoir de qui il s'agit. Alors évidemment, le pire, c'est quand il porte un nom tout à fait banal et un prénom encore plus banal. Quand il s'appelle Jean Durand, par exemple, c'est un peu compliqué. Quand vous tapez Jean Durand sur Mémoire des hommes, vous avez des centaines de réponses. Vous voyez, donc c'est un peu difficile. Et c'est vrai qu'il y a quelques soldats que je n'arrive pas, que je n'ai pas encore réussi à identifier. Alors en général, je réussis parce que tout simplement, il a un acte de décès. Et si un acte de décès, évidemment, ça me donne des éléments pour le comprendre. Là, récemment, par exemple, j'avais un capitaine qui a été quand même fait officier de la Légion d'honneur à titre posthume, donc un vrai soldat, vous voyez, qui a vraiment combattu, qui est mort, qui n'était pas du tout du département, qui a eu une carrière militaire avant la guerre, qui, au moment de sa retraite, se retrouve à Thouars. Je me dis, mais que fait-il à Thouars, vous voyez ? Or, en fait, il était tout simplement... au moment de sa retraite, il rentre dans l'administration fiscale. Voilà. Et donc, il est pour son travail, à Thouars. Vous voyez, je ne comprenais pas. Je lui dis, il ne s'est pas marié avec une fille de Thouars. Je crois qu'il venait de la Moselle, donc, très, très loin. Mais il avait fait une carrière militaire tout à fait classique. Hein. Il avait fini sa carrière comme adjudant. Et puis, quand il a été incorporé, donc rappelé en août 14, il a été directement nommé sous-lieutenant parce qu'il fallait de l'encadrement. Et puis, il est monté comme ça. Et il a eu... j'en parlerai quand je ferai ma conférence à Thouars, donc le 7 mai, devant le monument, donc le dimanche 7 mai, devant le monument à 11h. J'en parlerai. C'est un des soldats les plus décorés du département. Voilà. Je crois qu'on va arriver, on n'est pas très loin de la fin. On va peut-être évoquer notre... Je vais laisser la parole à Madame Bonnard qui va évoquer notre programmation.
Eh bien oui, il faut le faire.
Oui, en effet. Oui, les auditeurs justement pourront, en prolongement de ce qui a été dit par Monsieur Labbadie, poursuivre sur le monument aux morts, comme vient de dire Monsieur Labbadie. Il fera une conférence sur le monument aux morts de Thouars où il expliquera justement, il décryptera un petit peu les symboles du monument et les inscriptions sur ce monument le dimanche 7 mai à 11h devant le monument aux morts. Il y aura également la conférence aussi, toujours de M. Labbadie, sur l'événement, en fait, hein, se vêtir, se protéger, s'affirmer et plaire au 19e et 20e siècle. Où là, il y aura aussi, à partir de photographies anciennes, en fait, une conférence qui tentera justement de comprendre un petit peu à la fois l'aspect utilitariste du vêtement et aussi toute la symbolique, en fait. Et enfin, à contre-courant, là, M. Labbadie fait une conférence le vendredi 21 avril, puisqu'elle ne figure pas dans notre programmation, sur la Villa Marie-Louise, donc lieu emblématique hein, de la Gestapo à Digne-les-Bains, conférence qu'il fera le 21 avril à 18h30 à la salle annexe de la mairie de Gobert, voilà, pour le mois de mai. Je rappelle aussi que les auditeurs peuvent retrouver notre programmation culturelle sur notre site internet, hein, archive-le04@le04.fr. Voilà.
Voilà, très bien. Voilà. Ben écoutez, hein, je crois qu'on. Alors, je n'ai pas terminé hein, sur les monuments. Hein, voilà, on pourrait continuer. Mais enfin, en tout cas, c'est un projet qui est en cours. Voilà, j'appelle aussi les communes. Hein, je l'ai fait plusieurs fois de faire des conférences devant le monument, ce qui est quand même la meilleure solution. Hein, c'est beaucoup plus intéressant que de projeter des images. J'en ai fait quelques-unes comme ça. J'en ai fait une à Bro, par exemple, en été. Voilà, et en fait, c'est tout à fait agréable. Les gens sont, ça fait un peu une sortie, vous voyez, on est sur place et puis du coup on regarde quelque chose qui fait partie de notre patrimoine en fait, hein, sur les monuments. Et puis j'invite les uns et les autres à venir aux cérémonies, hein, donc il ne faut pas se tromper sur le sens de la cérémonie. En fait, la cérémonie du monument donc, qu'on connaît, hein, le 8 mai, le 11 novembre en particulier, hein, en fait c'est une cérémonie qui honore les morts. Et d'ailleurs, le cérémonial lui-même, en fait, rappelle l'enterrement, hein, en fait, d'une personne. C'est-à-dire que vous avez les porte-drapeaux qui représentent les combattants, donc les morts, et à la fin de la cérémonie, donc après avoir honoré ces morts, etc., la minute de silence, évidemment, aux morts, hein, la sonnerie aux morts, vous avez les autorités qui viennent saluer les porte-drapeaux, qui sont en fait la famille de ceux qui sont, dont les noms sont sur le monument. Voilà.
Jean-Christophe Labadie, merci. Céline Bonnard, merci. Et puis, on vous retrouve très prochainement pour une conférence. Le 21 avril, c'est la plus proche.
Oui, c'est ça, le 21 avril. Voilà.
Et le 7 mai.
Et le 7 mai. À toi, merci. On mettra le lien donc, sur le site. Bonne journée et merci pour ces histoires d'archives tellement riches.
Voilà, merci à vous.
Merci.
À bientôt.
Au revoir à tous.